Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes et vous écoutez Radion 90.5 ou sur internet, hein, radion.fr. Voici votre émission littéraire, c'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Un nouvel invité, un nouvel auteur pour nous accompagner aujourd'hui, Philippe Fraud, bonjour.
Bonjour.
Philippe Fraud, deux romans que nous allons mettre en valeur aujourd'hui, deux romans. L'un est sorti avril 2020, Mes ouais. vieux amants. Et le plus récent, fin de l'année 2020, décembre 2020, Honte avec un point d'exclamation.
C'est ça.
Philippe Fraud, vous habitez dans l'Yonne,
oui.
à Toussy. J'ai peu d'informations, hormis celles qu'offre la quatrième de couverture de vos romans. Donc vous vivez actuellement en Puisaye, vous êtes à Toussy. Vous avez été entraîneur de boxe.
Oui.
Vous avez, pendant un certain temps, exercé le métier de boulanger-pâtissier, métier que vous avez été contraint d'abandonner pour des raisons médicales.
Voilà, tout à fait.
Et puis, vous vous êtes lancé depuis combien d'années maintenant dans l'écriture ?
Ça fait un peu plus de 4 ans.
Alors, vous avez un parcours, me semble-t-il, original, Philippe Fraud. Parce que se lancer dans l'écriture, activité désormais professionnelle qui vous fait vivre.
Voilà, tout à fait, oui. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes soucis de santé, en fait, c'est un deuxième infarctus que j'ai fait. Et là, on m'a dit que la boulangerie-pâtisserie, fallait complètement arrêter. Parce qu'en plus, donc, j'étais entraîneur de boxe, comme vous l'avez dit, en parallèle du métier de boulanger-pâtissier. Donc, je dormais, on va dire, 2-3 heures par nuit. Le samedi de dimanche, c'était nuit blanche, j'emmenais les gars boxer. Alors, que ça soit les amateurs ou les pros. Et le dimanche, c'était les enfants. Donc c'était un petit peu une vie dingue. Donc après on m'a dit qu'il fallait arrêter complètement l'activité de boulanger-pâtissier. Et comme j'écrivais un petit peu, je me suis mis à écrire le premier livre, Larguer les amarres. Et il y a un ami qui a lu le truc, il m'a dit essaie de te faire publier. Moi j'avais pas du tout dans la tête de me faire publier. C'était histoire d'écrire pour m'occuper l'esprit, pour essayer de penser à autre chose. Et puis le premier éditeur qui était Evidence Édition, le manuscrit leur a plu, j'ai signé avec eux et ça a démarré comme ça.
Alors c'est intéressant parce que j'imagine que le choix du titre de ce roman n'était pas naïf, Larguer les amarres.
C'était pas naïf parce que j'étais à une période de ma vie où j'allais pas très bien non plus, bon pas qu'à cause des problèmes de santé mais j'avais une vie de couple aussi qui était un petit peu perturbée. Et c'est vrai que dans ma tête, j'avais vraiment eu une envie, comme on dit vulgairement, de me barrer, quoi, d'aller voir ailleurs. Et donc, Larguer les amarres, oui, ça fait quand même référence à ma propre existence. Oui.
Larguer les amarres, donc, c'est en novembre 2016.
Voilà, c'est ça, oui.
Et puis ensuite, il y a alors toute une série d'autres romans dans des maisons d'édition, puisque oui. aujourd'hui, vous êtes... On va dire autonome en termes de diffusion et d'édition de vos livres. Bon, on parle d'auto-édition. On reviendra peut-être sur ce choix pleinement assumé de votre part. Mais ensuite, au Lys Bleu, vous faites paraître d'autres romans. Alors, L'Optimiste Triste, très joli oxymore. L'Aigle Rouge des Frères Jumeaux. Prisonnier de Vivre Libre. Là encore, on est dans le paradoxe, l'antithèse. Et Le Brin est de retour.
Voilà.
Les deux romans que nous allons mettre en valeur aujourd'hui, j'en rappelle les titres, Mes vieux amants et Honte avec un point d'exclamation. Ce sont les deux titres qui vont nous occuper, mais Philippe Fraud, peut-être un commentaire sur alors l'avant-avant-dernier, dont le titre interpelle, Que tu sois elle ou lui, je t'aime.
Oui.
J'ai l'impression, Philippe, on y reviendra au cours de notre échange, mais que vous avez l'audace, peut-être aussi le courage, d'aborder des thèmes sensibles, parfois un peu polémiques, en tout cas pas dans le politiquement correct, ça c'est sûr et certain. Pas toujours.
C'est clair. Par contre, et justement, politiquement correct, moi j'ai ma politique, on va dire justement, c'est de ne pas pratiquer du tout l'autocensure. C'est-à-dire quand j'ai envie de parler quelque chose, je vais en parler. Après, je sais que ça va interpeller des gens. Il y en a qui ne vont pas forcément apprécier, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, que tu sois Louis, je t'aime, en fait, j'ai voulu traiter de la transsexualité, mais à travers, pas à travers la personne qui vit cette transsexualité, c'est à travers la personne qui vit avec. C'est-à-dire que c'est un homme, sa femme un jour va lui avouer qu'elle ne se supporte plus dans son corps de femme et qu'elle veut devenir un homme. Et j'ai voulu justement décrire un petit peu tout le parcours de cette personne, voir sa réaction par rapport à tout ça.
Alors de plus, pour écrire ce roman, vous l'avez fait aussi après avoir contacté une lectrice qui est devenue amie, et d'après les informations dont je dispose, je sais presque tout. Une psychologue ou psychiatre, je ne sais plus exactement.
Non, là c'était un psychiatre.
Donc c'est
un médecin qui avait acheté lui deux de mes livres. Et on s'est rencontrés comme ça et il m'a demandé le prochain sujet que j'allais attaquer. Puis je lui ai parlé de ce sujet-là et il m'a dit c'est marrant, si tu veux des tuyaux, parce que lui, sa spécialité comme psychiatre, il s'occupe principalement des toxicomanes et des transsexuels. Donc j'ai pu, lui demander des tuyaux pour rester vraiment dans quelque chose de très crédible.
C'est-à-dire qu'effectivement, liberté créatrice, certes, mais documentée de manière à rester vraisemblable.
Que ça soit crédible, que ça parte pas un petit peu dans tous les sens. Quoi.
Et que tu sois elle ou lui, je t'aime. Le sujet m'interpellait parce que je le trouve audacieux, ambitieux, courageux. Ça peut déplaire, comme ça peut intriguer, séduire. Le beau est toujours bizarre, écrivait Baudelaire. Lorsque vous avez écrit ce roman, ça vous prend beaucoup de temps, Philippe Fraud. Comment vous jetez sur le papier vos romans ? Vous les construisez par chapitre, par étape, ou est-ce que vous partez et puis ensuite vous élaguez si vous sentez que vous en avez trop écrit ?
C'est-à-dire que moi déjà je travaille un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'écris tout à la main. Le premier jet, il est toujours à la main sur un cahier. Ouais, cahier crayon, j'arrive pas à écrire directement derrière un clavier. Je sais pas pourquoi, c'est impossible. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'écris un livre, comme là j'attaque l'écriture en ce moment du 11e, quand j'écris un livre, je connais toujours le début, je connais toujours la fin. Par contre, ce qui va se passer au milieu, ça vient, comme vous dites, ça vient comme ça. C'est-à-dire, je me mets devant la feuille, je pars sur une phrase qui a terminé ce que j'ai écrit la veille, j'attends 5-10 minutes et ça vient comme ça naturellement. Je ne sais jamais ce qu'il va y avoir dans le milieu du livre. Mais le début, la fin, ça, je l'ai toujours. Ça, c'est, Et après, quand le premier jet est fini sur le cahier, là, je retranscris sur l'ordinateur et c'est là que je vais modifier des phrases, j'apporte toute la dernière touche finale, on va dire.
Alors, dans Wagon Livre, nous recevons différents profils d'auteurs. Certains sont amateurs, écrivent pour le plaisir des romans ou des livres historiques. Il y a des auteurs professionnels, des gens qui sont dans un grand circuit de distribution et de médiatisation. Vous, Philippe Fraud, vous avez fait le choix, alors encore une fois courageux, de vivre de votre plume. Vous avez l'impression d'être suffisamment mise en lumière, mise en valeur par les médias, quels qu'ils soient, télévision locale, radio, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radion, mais vous vous sentez suffisamment soutenu, parce que bien souvent, les écrivains me laissent entendre qu'ils sont un peu seuls.
Alors c'est un peu particulier, disons qu'avec les médias locaux, j'ai quand même des très très bons rapports. D'ailleurs, j'ai la chance qu'il y en a quelques-uns quand même qui me suivent sur les réseaux. Donc maintenant, souvent, c'est eux-mêmes des fois qui vont faire appel à moi pour faire des émissions. Après, c'est vrai que au niveau national, il faut vraiment se faire un nom. La seule chaîne nationale que je vais faire, on va dire, là, c'est la semaine prochaine, je vais faire une émission avec IDF1. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'est pas énormément suivi. Je vois même en médias locaux, même France 3 Bourgogne, j'ai déjà essayé d'avoir des touches avec eux, mais non, on me fait comprendre que pour l'instant, j'ai pas un nom. Quoi.
Alors, vous savez bien aussi que la place dans les médias réservés aux livres est de plus en plus mince.
Malheureusement, oui.
Malheureusement. En tout cas, vous n'avez pas d'attaché de presse, vous faites tout seul.
Oui, c'est ça.
Comment diffuse-t-on ces livres ? Parce qu'il faut en vendre des romans tout de même pour réussir à faire bouillir la marmite. Pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais c'est une réalité parlante pour chacune et chacun.
Alors en fait, moi je pars par une plateforme qui s'appelle BOD, Books on Demand, et cette plateforme-là, avec cette plateforme, on a la même diffusion que chez un éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont la même distribution, ils passent par Sodis. Donc Sodis qui est le distributeur de tous les... Qui travaille avec tous les éditeurs. Et moi, ce que je fais, c'est-à-dire que je travaille aussi avec des chroniqueuses. C'est-à-dire, quand je sors un livre, j'envoie le manuscrit aux chroniqueuses qui ont le champ tout à fait libre pour écrire ce qu'elles veulent. Et je travaille avec une bêta lectrice. Cette bêta lectrice, elle, je lui envoie le manuscrit avant de l'envoyer en impression. Et cette personne va m'apporter des corrections ou va repérer des coquilles qu'on va nous pas forcément repérer quand vous avez écrit le roman. C'est-à-dire vous pouvez passer 15 fois, 20 fois devant votre coquille, vous n'allez jamais la voir. Et donc je travaille avec ces gens-là et je travaille avec une graphiste. Et la graphiste, c'est la seule personne que moi je paye. C'est-à-dire que les autres, les chroniqueuses et la bêta lectrice, ils ont des sites littéraires. Donc en contrepartie, moi je leur fais de la publicité. Et je travaille évidemment beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire je vais beaucoup sur les réseaux pour partager et tout. Et moi, ce qui fait que les ventes se passent bien, c'est parce qu'à chaque fois, quand je fais une publicité pour mes livres, c'est partager, repartager, repartager, repartager. En fait, c'est ça, voilà. C'est toute cette visibilité qui fait que derrière, ça m'amène les ventes.
Donc, en fin de compte, l'efficacité, elle est liée donc, à ces partenariats avec ces blogueuses, chroniqueuses,
voilà.
Qui, j'espère, font des chroniques aimables de vos romans. Pas toujours ?
Généralement, oui. On va dire les trois quarts du temps, c'est aimable. Après, il y en a des fois qui vont... Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de « Que tu sois Lulu, je t'aime ». Il y en a une qui avait sorti une phrase de son contexte. C'est-à-dire, il y a un passage où, à un moment, le personnage principal, sa femme côtoie un couple d'homosexuels. Et donc, il reproche à ce couple d'homosexuels, en fait, d'être la cause de la transsexualité de sa femme. Et il va dire à un moment vulgairement, il va dire « Oui, je commence à en avoir marre de TPD », enfin de ces choses comme ça, il insulte sa femme. Et elle a sorti cette phrase du contexte pour dire « Voilà ce que pense l'auteur ». Donc oui, en fait, moi, elle a voulu me faire passer pour un homophobe. Et donc là, par contre, j'étais monté quand même au créneau. Et derrière, les autres blogueuses l'ont attaqué aussi pour dire « Non, non, il n'est pas comme ça, il y en a qui me connaissent ». Mais là,
oui, vous demandez un droit de rectification.
Voilà, tout à fait, oui.
Et parce puis, que... bon, il me semble tout de même, et ça c'est une prudence à avoir, que l'écrivain... L'auteur, c'est la personne physique, mais le narrateur peut ne pas...
Ah, tout à fait, oui. Enfin... Tout à fait, c'était deux choses différentes. Et ça, c'est vrai qu'elle avait sorti cette phrase du contexte. Et derrière, ça avait un petit peu bougé sur les réseaux. Mais heureusement, après, le calme a été rétabli. Quoi.
Bon, nous, on va non pas rétablir le calme, mais surtout marquer une première pause musicale. Je rappelle que c'est Philippe Fro qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Première pause musicale, c'est Emma Oé, Jeunesse exemplaire.
Soirée parisienne, c'est toujours les mêmes. Balade sur les quais, bien accompagnée. 5h du matin, je sais plus si c'est l'heure du café. Tout me paraît lointain, j'ai plus les idées claires, ni mon sac à main. Jeunesse exemplaire.
Jeunesse exemplaire.
Si je pouvais réécrire ma vie comme une histoire, j'effacerais tous les choix que j'ai fait ce soir. Même si sur le retour on marchait plus droit, mon seul réconfort. C'est toujours les mêmes. Chaque matin au réveil, je me sens comme dans un rêve. Insomnie soudaine quand tout se bouscule dans ma tête. Je repense aux folles nuits de notre jeunesse.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour devant le micro de votre émission littéraire avec notre invité aujourd'hui, Philippe Franc, qui nous vient de Toussy avec ses deux derniers romans, Mes vieux amants et Honte, avec un point d'exclamation. Hein. Il faut bien voir là la hargne, la colère et la déception. On parlera du synopsis de ce roman. Je reviens sur un roman que vous avez fait paraître alors au Lys Bleu. Mmh. C'est aussi pour montrer la variété des thématiques que vous abordez dans vos textes de fiction, Philippe Franc. Ce roman a pour titre « Le brin est de retour ». Oui. Un petit mot sur ce roman, s'il vous plaît.
Alors, « Le brin de retour », on va dire, c'est un roman qu'on pourrait un peu décrire comme d'anticipation, entre guillemets. J'y vais entre guillemets. J'ai imaginé en fait qu'avant les futures élections là, de 2022, tous les groupes extrémistes qu'on avait en France se regroupaient pour n'en former qu'un et prenaient le pouvoir. Donc avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire l'homophobie, la xénophobie, enfin toutes ces choses-là. Et ce que j'ai fait dans ce roman, c'est que j'ai juste changé le nom des responsables, mais j'ai gardé le vrai nom des groupes extrémistes. Ce qui m'a valu d'ailleurs des soucis, c'est-à-dire que j'ai été attaqué par Génération Identitaire pas mal de fois. Quoi. Sur Internet, ils m'ont attaqué, oui, pas mal de fois. Oui. Ils sont montés au créneau, ils n'ont pas apprécié ce que je disais. Bon, je disais la vérité, mais ils n'avaient pas aimé du tout.
Et justement, vous qui faites un usage important et utile, en tout cas, des réseaux sociaux, parfois, lorsqu'on aborde dans ses romans des thématiques un peu sensibles, n'y a-t-il pas aussi une forme de risque que l'on peut prendre ?
Ah oui, quelque part, ça peut être...
Non, mais sachant c'est... que vous... Oui, bon, là, celui qui écoute cette émission, je révèle que vous habitez, avec votre accord, que vous habitez Toussy, mais celui qui voudrait dire, Philippe Franc, avec son roman Le brin est de retour, on va essayer de l'attraper... Vous ne vivez pas dans la peur.
Non, j'ai eu des menaces comme ça où il y en a qui ont même écrit oui, on sait que voilà, que t'es un petit garçon, ceci, cela, mais bon, après.
Ah oui.
Oui, quand même, oui, ça avait été assez loin. Et puis après, alors au début, je leur répondais, et puis après, faut être honnête, comme. On va dire, eux, ils ne peuvent pas attraper un rhume de cerveau parce que je pense pas qu'ils en aient un. Donc après, j'ai laissé tomber un petit peu et je ne leur répondais plus. Quoi. J'ai dit, c'est la meilleure solution. C'était de les ignorer.
Alors parlons justement d'un des deux romans qui nous occupe en cette fin de matinée sur Radion. D'abord, Mes vieux amants.
Oui.
Je vous laisse peut-être poser le décor, nous présenter le héros de ce roman.
Oui.
Et puis, on parle un peu des thèmes qui traversent ce roman et qui me semblent être intéressants et des réflexions qui ont déjà été nourries, je crois, dans le passé. Mais le débat en France tourne un petit peu en rond, ça n'évolue pas trop, contrairement à d'autres pays européens. Mais c'est un sujet délicat. Je vous laisse nous présenter peut-être l'intrigue de Mes vieux amants.
Donc en fait, c'est l'histoire de Fabrice Vigo qui est responsable dans une maison de retraite. Et dans cette maison de retraite, il va accueillir deux nouveaux pensionnaires, Clovis et Madeleine, qui sont tous les deux octogénaires. Et entre ces deux octogénaires va naître une histoire d'amour. Donc déjà, premier sujet plus ou moins tabou, c'est-à-dire que l'amour entre deux personnes âgées, entre guillemets, c'est pas toujours bien considéré. Ces deux personnes âgées, il y en a une des deux qui va tomber gravement malade. Et Fabrice Vigo, donc le directeur, va se trouver confronté à un cruel dilemme, c'est-à-dire que cette personne va lui demander de l'aider à mourir. Et donc son dilemme, ça va être d'aider ou l'un des deux à mourir, voire les deux. Parce que l'un ne veut pas, si l'autre part, il veut pas rester. Quoi. Donc en toile de fond, j'ai voulu aborder aussi le problème de l'euthanasie. Parce qu'après, on en pense ce qu'on veut, mais moi, je pense que l'euthanasie, quand même, ça devrait être quelque chose de... Enfin, qu'on devrait tolérer, quoi, en France.
Oui. Ouais. Alors que, bon, pour l'instant, pour des raisons morales, éthiques, médicales, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, là, c'est un roman... Bon. On va pas dire non plus que c'est un roman à thèse, hein, parce qu'il y a une intrigue. Ouais. Il y a tout de même des moments joyeux, bien évidemment. Oui. Ce thème-là, vous le portiez en vous depuis longtemps ou est-ce qu'il y avait eu une affaire dans les médias, une actualité particulière qui vous a orienté vers l'action d'un roman qui se situerait dans une maison de retraite? On a beaucoup parlé des EHPAD, mais en raison de la pandémie de Covid-19 qui a été cruelle pour les pensionnaires pour de nombreuses familles. Mais... c'est un sujet que vous portiez depuis longtemps, vous, ou vous aviez un vieux compte à régler Parce qu'on a l'impression que vos personnages ont parfois des vieux comptes à régler avec certaines facettes de la société.
Oui, je me sers des romans, des fois, pour régler des choses qui me tiennent à cœur. En fait, là, je m'étais servi d'une expérience que j'avais vécue avec une de mes grand-mères, ma grand-mère paternelle, qui s'était retrouvée, elle, à l'hôpital. Et quand on était allé la voir, en fait, elle avait fait ses besoins sur elle et ça faisait un moment que personne n'était allé la voir dans la chambre et il a laissé un petit peu comme ça et il y en avait une, on avait interpellé une infirmière et elle nous avait dit, de toute façon, elle ne se rend pas compte, quoi. Oui. Donc ça m'avait un petit peu choqué. Et puis voilà, c'est pour ça, on va dire que c'était le point de départ. Ouais. Pour l'écriture de ce roman, je m'étais un peu basé sur cette histoire avec ma grand-mère.
Et effectivement, Mes vieux amants, ce roman, vous le dédiez en fait à tous les papys et mamies, et en particulier aux miens. J'ai eu la chance immense de les connaître.
Ah oui, tout à fait, oui. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, j'ai eu cette chance, oui, justement, de connaître mes grands-parents, d'avoir plein de souvenirs avec eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable quand on peut connaître ses grands-parents.
Alors, le personnage principal de votre roman, Mes vieux amants, donc Fabrice Vigot, qui est chef du personnel, il est marié.
Oui.
Il n'a pas d'enfant.
Non.
Mais il vit complètement pour ses pensionnaires. Il a, lui, à mon avis, il avait une véritable vocation de service et de respect de la personne humaine âgée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison de retraite? Parce que vous la présentez de manière justement idyllique, où la personne âgée est vraiment au cœur des préoccupations du personnel du matin au soir.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette maison de retraite-là, on privilégie en priorité l'humain. Et toutes les décisions sont prises, alors pas seulement par le personnel ni par la direction, c'est-à-dire que les pensionnaires de cette maison de retraite prennent part aux décisions qui vont être prises, que ce soit pour eux ou pour l'ensemble des personnes qui sont à l'intérieur.
Il y a un aspect un peu mutualiste
des décisions, tout à fait.
Rien n'est imposé, il y a concertation,
les
pensionnaires de la maison de retraite sont associés aux décisions de la direction.
C'est-à-dire que directeur annonce que deux pensionnaires vont venir remplir les rangs entre guillemets de l'EHPAD, eh bien il y a une réunion qui est faite justement avec le personnel et les résidents de cette maison de retraite.
Alors je cite une des réflexions du protagoniste, Fabrice Vigot, chef du personnel soignant de cette idéale maison de retraite née sous votre plume, mais il y en a sans doute.
J'espère. Je pense qu'il y en a, oui. Je sais que j'avais vu... alors c'est pareil, idyllique, c'est parce que j'avais vu un reportage sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision, je ne pourrais plus vous dire, mais où justement on voyait une maison de retraite comme ça qui était très 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 idyllique et ça m'avait vraiment plu, la manière dont les gens étaient traités, oui.
Alors voici ce que dit votre personnage principal, Fabrice Vigot. « Je fais une fois de plus le serment que nos aînés ont droit à leur dignité et ceci jusqu'à leur dernier souffle. » Les maisons de retraite ne doivent plus être des mouroirs, des endroits lugubres où l'on amène ces vieux pour les laisser passer de vie à trépas dans l'isolement le plus total. Vous n'allez pas vous faire des amis là, avec de telles positions. Alors, c'est le personnage, bien sûr, qui dit cela, mais on a le sentiment que Fabrice Vigot et Philippe Fraud...
Oui, c'est lié.
On a l'impression qu'ils sont assez proches l'un de l'autre.
Oui, tout à fait, parfois. Oui, parce que c'est ce que je pense. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a certaines maisons de retraite. Moi, je vois, j'ai mon ex-belle-mère où elle était à la maison de retraite. C'était... on voyait les pauvres papis, les pauvres mamies qui étaient vraiment laissés dans un coin.
Ils sont laissés dans un coin. Alors, en raison du désintérêt du personnel ou en raison d'un manque de personnel. Parce que là encore, alors, hypocrisie de la société, les informations sont tronquées, chacun avance ce qu'il veut. Et alors vous aussi, c'est un des aspects du romancier et de tous vos personnages, hein, on a l'impression qu'il y a une grande complicité entre l'auteur et ses personnages, c'est que vous dénoncez l'hypocrisie, les hypocrisies de la société et quelque chose qui vous insupporte, le politiquement correct.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est, s'il y a une chose que j'ai bien en horreur, c'est ça, le politiquement correct. Faire comme les autres, dire comme les autres, tout ça pour être dans le moule. Non, il y a des injustices qui existent, que ça soit n'importe où, même dans les maisons de retraite, des choses qui se passent qui ne devraient pas exister, des manques de soins. Alors après, c'est vrai que des fois, ils peuvent manquer de personnel. Mais je veux dire, ça n'excuse pas tout, quoi. On sait qu'il y a aussi de la maltraitance dans les maisons de retraite, mais il y a plein de choses comme ça qui sont cachées et on n'en parle jamais. Après, une chose aussi qui est assez... bon, il faut bien que les gens vivent, on va dire que ça coûte de l'argent, mais quand on voit les tarifs qui sont demandés aux gens dans les maisons de retraite, moi ça me paraît quand même phénoménal. Je ne suis pas certain que les tarifs soient vraiment justifiés. C'est tout un tas de choses comme ça, oui, qui me mettent un peu en révolte.
Alors, on va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle que c'est Philippe Fraud qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. Deux de ses romans, les deux derniers, sont mis en valeur, hein, « Mes vieux amants ». Donc, cette belle histoire d'amour, c'est la thématique des amours tardives.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, qui peut déplaire peut-être aux enfants quand on voit sa mère de 80 ans s'enticher d'un Clovis, ancien boulanger-pâtissier, qui est un personnage haut en couleur, on en reparlera peut-être. Et puis, l'autre roman de Philippe Fraud, c'est « Honte
oui. »,
avec un point d'exclamation. C'est important, la ponctuation ici, parce que c'est un roman sur le destin d'un père... Et sur l'attitude
de sa fille, oui.
Condamnable d'une fille qui rejette son père
voilà, c'est ça.
Parce qu'elle commence à toucher le ciel du succès, d'une certaine manière.
Voilà.
Bon, nous, on touche une pause musicale. C'est Philippe Fraud qui est avec nous. Nous revenons dans une poignée de minutes.
Comme une fusée qui gravite, le cercle ne se referme pas. J'ai grandi un peu trop guidé par ce chemin souvent tracé.
Comme si on ne vieillissait pas,
mais je sais où tu m'emmènes. Comme un emblème, je te regarde choisir ma voix, un peu comme une prière. Je lève ma tête en l'air. Du temps, mais je sais que tu mens. Mais du temps, comme je sais, même que c'est dans l'air, que c'est dans l'air. Dans un verre vide, comme c'est toi qui décides de ne pas t'arrêter là, que je sois une âme née ou un nouveau-né.
L'éternel n'est pas sans toi,
comme errer dans la sagesse, l'ivresse, la richesse. Je m'offre l'illusion d'être là. Quoi faire, tu ne manques pas d'air. Oh, oh, du temps.
Je sais dans l'air.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Il est venu de Toussy, il est avec nous en cette fin de matinée sur Radion, c'est Philippe Fro avec ses deux derniers romans, Mes vieux amants et Honte. Alors, nous parlions des amours tardives, de la maison de retraite qui ne doit pas être un lieu d'abandon, maison de retraite où finalement on peut encore motiver les personnes âgées, leur confier des décisions, les aimer, les respecter.
Oui.
Et alors là, c'est une des thématiques abordées. Surtout, est-ce qu'on peut aider une personne âgée alors qu'on sait son état de santé inexorable, est-ce qu'on peut aider une personne âgée à mourir? Alors, vous ouvrez le débat. Votre remarquable héros, lui, fait preuve d'un certain courage qui va le conduire dans une situation où il va devoir faire face à la justice.
À la justice, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, parce qu'en France, c'est quelque chose qui est toujours condamnable. On n'a pas le droit d'aider une personne à mourir. Ça c'est pareil, ça n'engage que moi, mais oui. Je pense qu'il y a certaines situations où on pourrait laisser ces personnes, quand c'est des maladies très graves ou quand les gens souffrent, on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir. Mmh. Je veux dire, un animal, on ne le laisse pas souffrir. Pourquoi on laisserait souffrir un être humain?
Alors là, dans votre roman, la charmante Madeleine, bon, elle a 80 ans,
ouais.
Alors c'est vrai qu'elle rencontre un autre personnage qui, comme elle, se trouve dans cette maison de retraite, et tous les deux nouent d'abord une grande complicité, et puis ensuite, alors, c'est un magnifique feu d'artifice amoureux pour les deux.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et justement, bon, ils décident de... Ah, il ne faut pas trop en dire, mais... Bon, ils décident de s'unir quasi officiellement. La maison de retraite est d'accord. Il faut dire aussi qu'ils veulent dormir dans le même lit.
Voilà, c'est ça.
Ne plus être dans une chambre individuelle.
C'est ça.
Donc c'est très amusant parce que ça bouleverse un petit peu les données traditionnelles de la vie dans la maison de retraite, parce que c'est plutôt des veuves et des veuves qui sont seuls en chambre. Alors que là, tout d'un coup, il y a un couple. Et c'est à la fois, ça nous redonne le sourire, et bien sûr, le roman a ses pesanteurs, il y a les choix, alors qu'on approuve ou pas, mais on a une sympathie évidente et très rapide pour votre héros. Il a voulu abréger la souffrance et permettre le bonheur jusqu'au bout.
Tout à fait.
Bon, comme vous le dites, Philippe Fro, à ce micro, c'est votre position, vous défendez. Bon, néanmoins, on peut ne pas être d'accord avec vous apprécier votre histoire. Alors, je vous avais demandé de sélectionner un extrait de Mes vieux amants. Je vous laisse nous le présenter et nous le lire, Philippe Fro.
Alors, en fait, moi, j'ai choisi l'extrait justement où c'est le moment où ils décident de s'unir. Et donc, ils demandent aux cuisiniers s'ils peuvent emprunter ses cuisines, comme Clovis est un ancien boulanger, parce qu'il veut faire une belle surprise à Madeleine, c'est-à-dire qu'il veut faire lui-même la pièce montée pour l'union, quoi. Donc je vais lancer. Alors, les préparatifs se firent sans encombre et nous pûmes envisager une cérémonie sous les meilleurs auspices. Clovis avait réussi le tour de force de me replonger dans les safres et les difficultés du métier de pâtissier. Nous avions eu à notre disposition les cuisines de la maison de retraite pour pouvoir réaliser notre pièce montée. Je remis donc la main à la pâte et c'est ainsi que, 4 jours avant le mariage, nous fîmes la pâte à choux avant le dressage. Il fallait que ces petits choux soient un peu plus cuits que d'ordinaire et placés au-dessus du four pendant au moins 48 heures afin qu'ils durcissent un peu. En effet, une fois remplis de crème et glacés de caramel, ils risquaient de ramollir au montage et l'effondrement du cône était inévitable. Je retrouvai assez rapidement les gestes une fois que j'eus la recette sous les yeux. Dans un gros faitout, je fis fondre le beurre coupé en morceaux dans l'eau à laquelle j'avais déjà mis le sel. Puis, j'ajoutai hors du feu la farine et remuai le tout avant de la dessécher à feu moyen. Ensuite, j'incorporai progressivement les œufs jusqu'à obtenir une pâte lisse. Celle-ci était parfaite lorsque, penchant la spatule, vous obteniez un effet bec de lièvre. Je ne fus pas maladroit pour le dressage sur plaque, alors que Madeleine s'occupait de la dorure. Puis, une fois la cuisson terminée et le tout refroidi, nous mîmes tout cela dans un grand carton que nous plaçâmes au-dessus du four. Le plus délicat restait à venir, faire le socle de la pièce montée en nougatine. Un moule à génoise de la taille souhaitée servirait de base. Celui-ci devait être parfaitement huilé pour que la nougatine n'accroche pas. Nous fîmes dans un premier temps chauffer le sucre au couvert d'eau dans lequel nous avions ajouté du glucose. Puis, une fois que tout cela avait viré une couleur caramel foncé, nous versâmes des amandes hachées et remuâmes pour que tout soit homogène. Ensuite, tout fut versé sur un marbre préalablement huilé. Puis, dès qu'elle ne collait plus, il fallait l'étaler avec un rouleau en aluminium et la plaquer dans le moule pour qu'elle prenne forme. Puis la tailler au ciseau et dès qu'elle refroidissait, la démouler délicatement et la placer dans un endroit frais et sec. Le jour J, il suffisait de garnir les choux de crème pâtissière au Cointreau et de les tremper dans du caramel élaboré avec du sucre et du fondant. Et le montage de la pièce montée pouvait commencer. Madeleine fut très enthousiaste devant le résultat. Quant à Clovis, il me dit que s'il m'avait eu comme apprenti, il ne lui aurait pas été nécessaire de me botter le cul trop souvent. Je ne pus que rire à cette remarque qui était un beau compliment.
Merci Philippe Fro pour la lecture gourmande de cet extrait.
J'ai fait une petite erreur. Par contre, c'est pas Clovis qui monte la pièce montée, c'est Fabrice, le directeur, le chef du personnel, qui est l'ancien boulanger.
Et en tout cas, cela nous met l'eau à la bouche et il y aura bien sûr le repas de cette union entre Madeleine et Clovis, les cuisses de canard confites arrosées d'un coulange lavineuse.
Tant qu'à faire.
C'est bientôt l'heure de l'apéritif en cette fin de matinée sur Radion. Alors bien sûr, il aurait pu y avoir une petite scène un peu érotique entre Madeleine et Clovis. Ça manquait un peu, c'est dommage, on aurait aimé un peu d'audace du romancier.
Le truc, c'est que j'ai voulu tenter, mais je ne m'en suis pas senti vraiment capable de faire ça en restant soft. Et j'ai pas eu l'inspiration pour le faire, voilà. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu l'inspiration pour le faire.
Bon. Et le monde carcéral, vous le connaissez un peu? Parce que vous en parlez, notamment l'épisode du mitard. Alors moi, je pensais que c'était révolu. Or, en vous lisant, finalement, ça existe encore.
Non, c'est pas révolu, ça existe encore. Et je le connais, on va dire, pas personnellement. Je le connais par le biais de quelques personnes, je connais, qui ont eu affaire à la justice et puis qui se sont retrouvés comme ça en univers carcéral. Et non, ça existe toujours, le mitard, il y a toujours... ça fait toujours partie des sanctions qui sont prises quelquefois.
Ouais. Bien. Alors parlons... cette fois-ci, du dernier roman. Celui-ci, il a paru en décembre 2020 et il a pour titre « Honte », je le répète, pardon d'insister, avec un point d'exclamation derrière. Là encore, Philippe Fro, puis-je vous demander de nous présenter l'intrigue de ce dernier roman ?
Tout à fait. Alors, c'est l'histoire d'un père et de sa fille, une jeune adolescente. Et au tout début de l'histoire, il coule des jours heureux, le papa est avec son épouse, la jeune fille, et malheureusement il va survenir un drame, et ça je peux le dire, ça fait partie du début de l'histoire, donc la maman va décéder, et autant la jeune fille va se servir quelque part de ce décès pour essayer d'en faire une force, que lui, le papa, va complètement se laisser aller et il va s'abandonner complètement, il va s'adonner à la boisson, il va prendre beaucoup de poids, il va vraiment se laisser déchoir. Et en contrepartie, c'est que la jeune fille, elle, de son côté, va commencer à intégrer le milieu du cinéma et va commencer à avoir un certain succès. Et donc, peu à peu, elle va se détourner de ce père, justement, qui a pris beaucoup de kilos, qui n'est plus du tout la même personne, et elle va commencer à avoir honte de ce père, donc ce fameux titre. En fait, j'ai voulu montrer un petit peu ce qui pouvait malheureusement se passer quelquefois avec les parents et les enfants.
Alors, c'est l'histoire de la chute d'un père et de l'ascension d'une fille,
voilà,
en fait. Ils ont chacun deux parcours totalement antinomiques.
Voilà, et la fille, justement, pour elle, la chute de son père ne peut pas aller avec son ascension.
Alors, là encore, le personnage qui, effectivement, laisse aller physiquement, tombe dans l'alcoolisme, le tabagisme, et ensuite ce qu'on appelle l'obésité morbide.
Ouais, oui, tout à fait.
Alors cet homme qui mange et qui a tout perdu, hein, qui vend son pavillon, il avait un étang, il avait une Porsche, et en plus il avait, alors c'est terrible, c'est une sorte de retour à la case départ, parce que il venait déjà d'un milieu familial qui ne le prédisposait pas particulièrement à bien réussir. Lui a su profiter de l'ascenseur social d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Lui, c'est pareil, parce qu'il venait d'un milieu où, justement, ses parents étaient alcooliques et il avait été placé dans un foyer religieux. Donc, il avait déjà, au départ, comme on dit, il partait sur des mauvaises bases. Donc il s'était battu justement pour réussir. Et là, suite à la perte de son épouse, il va tout perdre, parce que suite à l'alcoolique, il va perdre son travail. Donc il va se retrouver sans rien et ouais, il va repartir de zéro, quoi.
Vous l'avez dit, votre héros, Claude Janson, donc, est retiré à ses parents, parents qui sont alcooliques, qui ne sont pas méchants, hein, ils ne le maltraitent pas. Mais enfin, disons que, bon, ils n'ont... Ils sont un peu loin des réalités et des devoirs qu'engage l'identité de, parents. Il est placé, effectivement, en institut religieux, et on a le sentiment, alors là encore, cela revient souvent, que ce soit dans Mes vieux amants ou dans Honte, il y a tout de même un rejet de la religion par vos personnages. Et Philippe Fraud.
Alors oui, ça c'est toujours...
Parce que c'est pas parce que les personnages de Philippe Fraud sont anticléricaux que Philippe Fraud est anticlérical.
Bah, c'est vrai que moi j'ai quand même un petit souci avec la religion. Alors mon plus gros... On va dire mon souci principal avec la religion, c'est que souvent ce que je reproche à tous ces gens-là, c'est que ce sont des gens qui prônent la tolérance. Et souvent, quand on discute avec eux, c'est eux les moins tolérants. Et ça a toujours tendance...
Toutes religions confondues.
Souvent, oui, je m'en suis aperçu. J'ai discuté avec pas mal de... Parce que j'aime bien, parce que avant de critiquer, j'aime bien discuter avec les gens. C'est-à-dire, je vais jamais amener une critique si je discute pas avec les personnes. Et souvent, les trois quarts du temps, je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais les trois quarts du temps, que ça, j'ai discuté avec des catholiques, avec des musulmans, avec des juifs, avec des... Et souvent, on s'aperçoit qu'ils prônent la tolérance, mais dès l'instant qu'on s'écarte un peu, ils sont pas du tout tolérants, quoi.
Bon, vous allez encore vous faire des amis, Philippe.
Oui, voilà, tout à fait.
Je rappelle donc Honte, c'est votre dernier roman. L'avant-dernier a pour titre Mes vieux amants. On marque un dernier intermède musical et nous retrouvons notre invité. Je rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à midi en ce week-end de Pâques.
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri, comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit, et que malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Honte. Non, n'ayez pas peur, c'est pas à mon invité que je crie ce terme. C'est le titre de son dernier roman paru en décembre 2020 et c'est Philippe Fraud qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion. Alors, Philippe Fraud, très à l'aise devant le micro ?
Ça va.
Le prochain roman est-il en cours d'écriture ?
Alors, il est même fini.
Indiscret de vous demander, non pas l'histoire, mais... une thématique particulière qui va être abordée ?
Une thématique, ça va être la dépression et la difficulté pour une personne de vivre avec quelqu'un de dépressif. Voilà, parce que c'est vrai que le dépressif lui souffre beaucoup, mais généralement l'entourage souffre aussi. Et j'ai voulu dépeindre ce truc-là.
Alors, est-ce que... parce que les deux romans que j'ai lus sur les 7 que vous avez écrits...
C'est 8.
8, pardon.
Ouais.
Ont des dénouements... souvent lourd,
oui.
Pesant.
Oui.
Est-ce que vous allez un jour faire un roman avec un dénouement un peu heureux, Philippe Fraud ? Là, c'est pas un reproche. Hein,
non, je sais.
Parce qu'on termine ses romans comme on veut. Il y en a plein des romans de littérature.
Vous êtes pas le premier à me le dire, c'est pour ça.
Mais pourquoi toujours cette gravité ? Il n'y a pas de légèreté pour vous, là, vous écrivez, c'est aussi... pour faire passer des idées à un Philippe Fraud plutôt un homme... pessimiste plus qu'un optimiste ?
Alors dans la vie, je suis pas pourtant quelqu'un de pessimiste dans la vie, mais c'est vrai que quand j'écris, d'ailleurs c'est pour ça que j'écris à la première personne du singulier dans les romans, pour bien m'identifier au personnage, et c'est vrai que par rapport au sujet que je traite, je vois pas souvent comment je pourrais amener un dénouement heureux. Et puis après, je pense que je veux justement quelque part, j'essaie d'appuyer là où ça fait mal, justement en faisant des dénouements comme ça, pour bien faire sentir aux gens le message justement que je veux leur faire passer à travers tout ça.
Et vous mettez souvent en scène, alors je ne parle pas encore de votre Fabrice Vigo, là, le chef du personnel soignant dans Mes Vieux Amants, c'est un homme équilibré, digne, avec lequel on aurait envie de partager un apéritif en tout cas.
Tout à fait, oui.
Mais vous avez aussi quand même des personnages qui sont des cabossés par la vie, des cabossés de l'âme. C'est le cas de Clovis, par exemple, qui lui aussi a un point commun avec le protagoniste de Honte, c'est qu'il a été rejeté par ses deux fils.
Tout à fait, oui.
Abandonné. Il a une santé mentale correcte, un petit peu d'argent.
Oui.
Et il est très content d'ailleurs de se dire « je vais essayer de tout manger pour ne rien leur laisser
voilà, ».
Mais
fait.
Finalement, parce qu'il y a des familles, toutes les familles ne sont pas unies.
Non, c'est sûr.
Malheureusement.
Malheureusement,
il y a toujours des secrets dans les familles.
Ouais.
Vous, Philippe, c'est aussi une douleur qui n'est pas si secrète que cela, puisque vous l'écrivez.
Ah, tout à fait, parce que moi aussi, j'ai pas eu toujours, on va dire là maintenant, on va dire que je me considère presque heureux, mais c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique, dont je me suis servi d'ailleurs dans mes livres. C'est vrai qu'il y a une époque de ma vie où, même si ça paraît pas vieux, j'ai vécu pendant une semaine à la rue. Je couchais place des Cordeliers, pour ceux qui connaissent, à Auxerre.
À Auxerre.
Voilà, donc j'avais la chance, moi, d'avoir ma voiture quand même. Donc je dormais dans ma voiture. Après, par rapport à la vie de famille, comme vous citiez, moi, c'est pareil. J'ai deux grandes filles qui ne me parlent plus depuis presque 10 ans. Donc, suite au premier divorce qu'elles n'ont pas accepté, alors que c'était plus des bébés quand ça arrivait, la plus grande était d'ailleurs vivait avec son copain. La deuxième avait 18 ans. Donc, voilà. C'est tous ces parcours-là, oui, qui, je pense, qui m'ont façonné un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que quand j'écris, je veux pas régler les comptes, mais je veux dire des choses qui me tiennent à cœur, pour expliquer que. C'est pas parce qu'on a eu ce parcours-là qu'on peut pas faire autre chose à côté, quoi. En plus, moi, je suis pas du genre, même quand je m'étais retrouvé à la rue, je suis pas du genre à me mettre la tête sous l'eau. C'est-à-dire, quand ça va pas, j'arrive à, allez, je vais être vulgaire, à me donner un coup de pied au cul et à repartir.
Oui.
Ouais.
Plutôt résilient, alors.
Ouais, plutôt, oui.
Alors, est-ce qu'il y a, question un peu fantaisiste et gourmande à la fois.
Allez-y.
Les souvenirs de l'ancien boulanger-pâtissier que vous avez été, métier...
Ouais.
Vous l'avez expliqué au début de notre échange que vous avez dû abandonner pour des raisons de santé. Et entre la confection d'une pièce montée et l'écriture d'un roman, y a-t-il des étapes c'est une question fantaisiste, mais est-ce qu'il y a des... Parce que c'est un métier d'artisanat.
Ah, tout à fait.
Hein, oui. Une pièce montée, ah, oui, c'est de l'artisanat.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a des concordances. C'est vrai que bah, c'est comme pour une pièce montée, c'est-à-dire que on va travailler en amont, c'est-à-dire que on va dire les choux qui doivent être cuits en amont et être séchés, bah, ça va être le ce que j'appelle moi l'introduction du roman, c'est-à-dire que je vais savoir le début de mon roman, et donc c'est la préparation, et après, ben oui, le montage de la pièce montée, on va dire que c'est comme le montage du roman, c'est l'écriture qui se fait.
Et certains de vos personnages, alors je pense par exemple à Fabrice Vigo dans Mes Vieux Amants, qui se retrouve incarcéré en attente d'un procès, je n'en dis pas plus. Bien sûr, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est la séparation d'avec sa femme, c'est aussi un compagnon de cellule avec lequel il faut cohabiter tant bien que mal. Néanmoins, il y a un côté combatif, et le boxeur encore que vous avez été, peut-être que les combats de vos personnages, qui semblent motivés, véhéments, parfois aussi un peu Fabrice Vigo, familièrement, il pète les plombs. Mais il y a un côté boxeur, punchy, pour utiliser un terme anglais.
Ah oui, tout à fait, parce que d'ailleurs, on dit souvent que ceux qui font la boxe, qui l'ont pratiqué, alors que comme moi, ou en tant qu'entraîneur, ou en tant que boxeur, on dit que c'est l'école de la vie. Et c'est tout à fait vrai, parce que dans la vie, de toute façon, il faut se battre, il faut... on n'a rien sans rien, on n'a pas de... Comme des fois, j'entends certaines personnes qui disent... oui, là j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, c'est la société. Ben non, c'est pas la société. La société, elle est aussi ce qu'on en fait. Je veux dire, c'est pas la société qui va vous amener tout près sur un plateau. Si on se bouge pas, si on fait rien, on a rien. Les choses sont comme ça.
Je suis assez content de vous l'entendre dire, parce que c'est vrai que on entend un peu trop souvent un discours où c'est la faute de la société, c'est la faute de l'école. Mais comme vous dites, Philippe Fraud, à un moment, il faut... C'est pas toujours facile, mais il faut prendre un peu sa vie en main. Je crois que vous en êtes vous-même l'exemple, parce que avoir été privé de ce métier pour des raisons médicales, ça a été peut-être aussi une forme de deuil à faire.
Ah, ça a été quand même une grande claque, parce que j'adorais mon métier. Oui, c'est vrai que j'allais... après, j'étais à mon compte, en plus, moi, quand ça m'est arrivé. Donc, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et j'allais pas au travail en reculant, comme on dit. Oui. J'étais vraiment content. En plus, quand j'avais des commandes de pièces montées, ça permettait d'innover, de faire des trucs. Puis non, j'étais vraiment bien, quoi. Puis j'aimais ce rapport aussi avec la clientèle, j'aimais tout ça. Et oui, là, ça a été comme un deuil, donc il a fallu se relever, oui.
Bouleversement dans votre vie, avec en plus les tracas, retrouver un créneau professionnel, retrouver la santé, un équilibre mental, on a bien compris tout cela. Mais vous êtes, en étant maintenant écrivain en auto-édition, donc j'allais dire... propre producteur de ses livres et également propre diffuseur de ses livres. Ce qui est le plus difficile, c'est de les diffuser. Ouais. Mais vous jouissez d'une grande autonomie, d'une grande liberté à Toussy, avec une voisine en plus
connue,
qui n'est pas anodine.
Non, Chantal Latsou, qui habite juste en face de chez moi. Et oui, maintenant, c'est vrai que moi, ce que je dis toujours, c'est que y avait un de vos confrères un jour qui m'avait demandé si au moment là de la... du confinement, si j'avais pas trop souffert de tout ça et tout. Puis je lui ai dit que moi, franchement, faudrait pas que je sois non plus malhonnête. J'ai pas le droit de me plaindre maintenant à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je fais un métier qui me plaît, qui maintenant me paie, me fait vivre. Donc ça serait quand même malvenu de ma part de me plaindre. Je veux dire, maintenant, je suis heureux dans ce que je fais. J'ai une liberté. C'est-à-dire que si un matin, généralement j'écris le soir, mais si un soir j'ai pas envie d'écrire, je vais plutôt écrire le début d'après-midi. J'ai pas des horaires définis comme chez un patron, donc maintenant oui, on va dire tout va bien.
Bon, et bien tant mieux, et ça nous fait plaisir d'entendre cela. Et je rappelle aussi à celles et ceux que nous écoutent que le parcours de notre invité Philippe Fraud n'a pas toujours été un parcours très lisse. Il y avait plein d'aspérités, plein de scories. Philippe Fraud en sourit aujourd'hui. Et puis surtout, il a su rebondir courageusement en s'adonnant à l'écriture qui est maintenant son métier. Alors je rappelle les titres, parce qu'on est à la fin de l'émission, Philippe. Déjà. Je rappelle le titre de ces deux derniers romans, Mes Vieux Amants, donc sortis au printemps 2020, avril, et puis Honte, l'histoire de cette jeune adolescente qui pourtant avait un lien fusionnel avec son père, mais qui, suite à un drame familial, s'éloigne de son père pour ensuite le rejeter. C'est bouleversant, c'est terrible, et malheureusement, ça existe dans certaines familles. Philippe Fraud, si on veut, alors, entrer en contact avec vous. Bien sûr, on peut toujours passer par l'émission Wagon Livre, on fera suivre puisque nous, nous sommes en contact. Mais vous avez les sites, les réseaux sociaux. La parole est à vous, Philippe.
Alors, on peut me contacter via Facebook. Par le, alors, le pseudo, le mieux, c'est de passer par le pseudo, c'est Phil Alan. Donc, P-H-I-L, plus loin, Alan, A-L-A-2-N. On peut me contacter sur Twitter. On peut aller sur ma page internet qui est philippe-du6fro.jimdofree.com. Et puis après, oui, c'est, voilà, sur ces réseaux-là. Puis même si les gens tapent sur Google Philippe Fro, ils vont tomber dessus. Donc.
Je confirme, je confirme. Et puis maintenant, quand vous taperez Philippe Fro, eh bien, vous serez renvoyé vers le podcast de notre émission. Si vous avez manqué le début de cet échange avec Philippe Fro, vous le retrouvez bien évidemment sur le site d'archives de l'émission yannickpetit.fr. Et c'est gratuit. Et il y a des milliers de gens, il y a 10 000 visites par mois. Rappelons-le, depuis, allez, on va dire 5-6 ans que le site existe. La semaine prochaine, je recevrai Liliane Mosca qui viendra devant ce micro nous parler de ses deux derniers romans. Alors, nous parlerons de La Demoiselle à l'éventail. Ça, c'est sorti en juin 2020. Alors, très, très mauvaise période parce que c'était le confinement. Mais celui qui est sorti courant mars dernier, le mois dernier, Le Jardin secret de Violette, qui est l'histoire d'une nourrice de la Nièvre. Elle habite le village de Lormes, dans la Nièvre, à quelques kilomètres d'Avallon. Et elle va devenir nourrice dans une grande famille parisienne avec plein d'aventures. On reparlera donc de la condition de la femme. Merci Philippe Fro d'avoir été aujourd'hui devant notre micro. C'est un grand plaisir et une belle découverte aussi. Je souhaite un excellent congé de fin de semaine à nos auditrices et auditeurs. Joyeuse Pâques. Et rendez-vous samedi 10 avril, toujours à 11h.
Et si je me permets, comme d'habitude, je fais un petit coucou à mon petit garçon Alan.
Et bien, un grand bonjour à Alan. Merci Philippe Fro, au revoir. Merci de votre écoute et de votre fidélité.